Place à la chronique La musique et le monde avec Alexandre Etier, qu'on va amorcer avec ceci. Alexandre, bonjour.
Bonjour.
Dis-moi, qu'est-ce qu'on entend?
Ben là, moi, j'entends rien, mais je pense que vous entendez la valse numéro 2 de Antonio Lauro.
Exactement.
Qui est un compositeur vénézuélien. Écoute, cette pièce-là que vous entendez en ce moment, ça a été pour moi un choc incroyable. Mon père jouait ça dans le salon, puis c'est là que j'ai décidé que j'allais faire de la guitare, j'allais faire de la musique, j'allais faire de la guitare classique. Fait que ça a été un virement 180 degrés pour moi. Mon coup de foudre avec la musique vient de cette pièce-là.
Donc, c'est vraiment un élément déclencheur dans ta vie, là?
Absolument. Dans ma vie, ça a été un élément déclencheur complètement. J'avais une adolescence un peu bordélique, un peu folle, puis ça m'a ramené sur terre, puis ça m'a surtout donné une passion, puis donné un chemin de vie. Donc, à partir de cette... Vraiment, là, ça s'est passé en une soirée. Mon père jouait ça, puis le lendemain matin, je savais que j'allais faire ça. Fait que j'ai commencé à apprendre la guitare classique le lendemain matin à l'écoute de cette valse-là. Et puis, ça reste un des compositeurs qui m'accompagne de jour. Je trouve que c'est un fabuleux compositeur, puis c'est des pièces courtes, tu sais, c'est des pièces de 2 minutes, 3 minutes, c'est des valses, c'est une musique qui est absolument sublime, puis qui, y a des mélodies, il y a des rythmes incroyables, il y a des emprunts à la musique contemporaine. C'est un compositeur qui est fabuleux. Il est né en 1917, notre cher Lauro, puis il est mort en 86, puis il a une vie absolument rocambolesque aussi. Je vais vous conter ça un petit peu.
Ah oui?
En fait, Lauro, c'est ça, il est né en 1917 d'un papa qui était un coiffeur puis un chanteur. Et puis, lui aussi, il a eu le même choc que moi, mais c'est envoyé un autre guitariste qui s'appelle Agustín Barrios, qui est un guitariste très reconnu dans le monde entier, qui joue aussi un guitariste-compositeur qui était paraguayen. Puis, quand il a entendu ça, il a eu le même choc que moi de dire « OK, ben je vais faire de la guitare », puis il s'est mis à étudier la guitare. Il était allé au conservatoire à Caracas, parce qu'au début, il vient de la Ciudad de Bolívar, qui est une ville pas très loin de Caracas. Puis jeune, son père est décédé quand il était enfant. Il a déménagé à Caracas, puis là, il s'est mis à aller au conservatoire. Puis après ça, il a appris la guitare avec un certain Raúl Borges, qui est un professeur très connu à cette époque-là au Venezuela. Et puis, ce qui caractérise vraiment la musique de Lauro, ben, premièrement, c'est, tu sais, à cette époque-là, dans les années 20, 30, 40, 50, il y a eu une espèce de mode là, où on s'est détaché complètement de la mélodie, puis on s'est mis à faire de la musique hyper atonale, où il n'y avait plus de mélodie, il n'y avait plus de rythme. Je rigole parfois en parlant de musique contemporaine. Et puis, lui, il n'est pas rentré là-dedans. C'est vraiment c'est un musicien qu'on appelle nationaliste. Lauro était fier de sa culture, fier de son identité. Puis, dès le début, c'était un fervent nationaliste culturel. Il était déterminé à célébrer l'héritage musical de sa nation. Puis, c'est ça qu'il a fait à travers des pièces, comme je disais, courtes souvent. Il a fait une série de valses. Il a été aussi très frappé par la musique qui avait été composé un siècle avant par Ramón Delgado, qui lui est un spécialiste des valses, fait que s'est mis à écrire des valses, mais la spécificité qu'amenait Lauro, c'est la rythmique. C'est-à-dire, il faisait des émioles. Une émiole, c'est quand, mettons, t'as une mesure en 3/4, c'est-à-dire 3 temps par mesure. Lui, il faisait des ensembles de mesures, ça devenait des 3/2 sur des longues, sur 2 mesures. Puis ça donne une rythmique qui est particulière. Puis ça a été emprunté après par Spetana, Bartók, Granados, ils en ont fait un art national en Europe. Et puis Lauro, ben, c'est ça, il s'est mis à jouer de la guitare, c'est un guitariste, compositeur, il a composé des centaines d'œuvres pour guitare qui sont jouées aujourd'hui là, par tous les grands guitaristes. C'est un incontournable de la guitare classique. Et puis sa vie, écoute, il était emprisonné, lui, dans les années 50, quand il y a eu la junte militaire de Marcos Pérez Jiménez. Il y a eu la junte militaire, et puis lui, c'était un fervent démocratique, social-démocrate. Et puis, il n'a jamais eu peur de ses idées lors de ses concerts. Il parlait de politique. Il était très impliqué, puis il s'est fait emprisonner. Puis même en prison, il a continué de composer. Il a continué d'écrire des pièces qui sont devenues des immortelles, là, des pièces qui sont jouées partout. Et puis, il s'est toujours considéré plus comme un compositeur que comme un guitariste. Puis pourtant, c'était un grand virtuose, parce qu'on peut encore aller voir, si vous allez googler, là, Antonio Lauro, il y a quelques vidéos de lui, mais là, je vous dis, le son, la vidéo, c'est Boboy.
Ouais, ça fait longtemps, là.
Et ça fait bien longtemps. C'est en noir et blanc, puis c'est statique pendant. Mais ça donne une idée quand même du génie, parce qu'on le voit pareil, là, on entend la musicalité puis tout. Puis il a fini par un moment donné accepter de « ok, je vais être un guitariste classique », puis de jouer ses pièces en solo. Puis il a même fait des performances, il est allé faire des tournées, il s'est ramassé à Londres, au Wigmore Hall, qui est une salle de concert très très connue. Et puis là, Oro, ben, il est devenu le musicien national. Et tu sais, au Venezuela, c'est pas comme au Québec, là, on reconnaît vraiment l'importance des musiciens, qu'ils soient folkloriques, classiques, whatever. Lui, il a la reconnaissance, c'est le musicien national. On lui a fait diriger l'orchestre symphonique dans son pays. Il a enseigné dans les plus grands conservatoires. Et puis, il y a des pièces qui sont jouées aujourd'hui. Il y a la vase que je vous ai montrée là, mais la Seis por Derecho, qui fait référence à la harpe vénézuélienne. Puis, dans toute la musique de Lauro, il y a la référence folklorique. Je trouve que c'est vraiment intéressant, puis c'est un truc qui m'intéresse de faire tranquillement, pas vite. Plus je compose, plus je me mets à l'écriture musicale, d'incorporer notre folklore dans la musique classique. Ça a été fait un peu par André Gagnon, mais pas vraiment encore. Puis c'est un truc que je trouve que j'aime ça, cette espèce de fierté nationale-là, cette identité-là, puis surtout ce côté mélodique, rythmique, qui est vraiment entraînant. T'sais, on n'est pas dans des œuvres qui durent une heure où on décroche, là, rendu à la 15e mesure. C'est des petites pièces, c'est des petites perles. Tout est dit, tout est exprimé d'une façon absolument incroyable. Puis le guitariste que je vous ai fait jouer à l'entrée, c'est un des grands guitaristes que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Roberto Hassel, qui fait partie d'une grande école sud-américaine de guitare. Parce que des fois, tu peux entendre Lauro jouer très, très, très vite, mais sans cette espèce d'émotivité-là que peut mettre Roberto Hassel ou les Alvaro Pierri ou cette école sud-américaine. Puis écoute, je vous invite à aller le googler puis aller écouter sa musique, parce qu'on dit de lui, c'est un peu le Strauss, le Chopin aussi. C'est beaucoup inspiré de la musique de Chopin. Puis, il a enrichi vraiment énormément le répertoire de guitare classique. Tout guitariste là, a déjà passé par ces pièces-là. Puis, c'est drôle parce que Lauro, ça a l'air facile, puis c'est de la musique hyper difficile. C'est très dur à jouer, à bien exécuter, à bien faire cette musique-là. C'est une musique qui est polyphonique, qui est riche. C'est de la musique qui est courte, mais c'est une pièce 2 minutes. Peut prendre plusieurs mois à bien la maîtriser. Ah, ouais. Puis tu vas jouer pendant des années ces pièces-là, puis tu vas toujours évoluer parce que c'est vraiment, c'est des petits diamants, sa musique. Et puis, ben c'est un musicien qui est très, très reconnu au Venezuela, un pays que j'adore.
Oui.
Ça fait suite un peu à ce qu'on a parlé hier. Et puis, même aujourd'hui, l'orchestre Simon Bolivar, mais même j'ai entendu Dudamel faire des arrangements symphoniques de sa musique, parce que comme je dis, il est reconnu vraiment comme le musicien vénézuélien. Là, il y a des statues de lui partout, puis tout ça. Fait que c'est un peu leur Félix Leclerc, leur Gilles Vigneault, mais avec la reconnaissance nationale et tout. C'est quelque chose de vraiment fabuleux de voir cette culture-là qui est vraiment célébrée dans son pays, puis qui a émergé partout dans le monde. Donc, allez écouter ça. Antonio Lauro, vous allez certainement aimer ça. C'est une musique qui s'écoute bien, là. C'est pas un truc... c'est très digeste comme musique.
Ben, ça a été intéressant d'avoir un petit bout de ta musicographie.
Ça
fait partie de tes racines, Alexandre.
Ah, c'est oui! C'est ça, parce que c'est vraiment parti de là. Je veux dire, moi, mon père a joué ça, puis ça a été une révélation. Puis c'est drôle parce qu'il y a le début, là, t'as le thème. Puis à un moment donné, il arrive dans le milieu, puis là, il se passe quelque chose. Il y a une espèce d'accord septième qui est joué là, puis là, ça, c'est cet accord-là qui m'a transpercé complètement. Là. C'était, tu sais, un moment spirituel, là, un éclair qui m'a transpercé le corps. Puis ça a fait « Qu'est-ce que tu joues là, papa? » Puis là, il m'a dit « C'est Antonio Lauro », puis c'est à partir de là que j'ai décidé de jouer de la guitare. Donc, je voulais partager ça avec vous parce que c'est...
Ouais. Tu ne pourras pas oublier ce moment-là, ça, c'est certain.
Jamais, ouais.
Ben, merci pour ces instants, Alexandre.
Merci.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Bye-bye.